Salut à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour Votre Santé, Votre Avenir, présenté par Nanit Talani. La consommation des stupéfiants continue de bouleverser de nombreuses vies à travers le monde. D'après l'ONU, le taux de prévalence de la consommation rien qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale est supérieur de 10% aux moyennes mondiales, établie à 4,4%. Alors que 10% des consommateurs de drogue en Afrique sont des femmes, seulement 9% de cette population reçoit un traitement pour des troubles liés à la toxicomanie dans ce continent. Il reste aussi une zone de transit pour les stupéfiants destinés au marché européen avec des saisies de cocaïne estimées à 80 tonnes. Entre 2019 et 2023, seulement en Afrique de l'Ouest. Quelles sont les principales motivations qui poussent les individus, notamment les jeunes, à expérimenter et à continuer la consommation de stupéfiants malgré les risques connus pour la santé et le bien-être? Comment ces stupéfiants impactent-ils négativement la vie des consommateurs? Quelle aide et quels traitements sont disponibles pour les personnes dépendantes aux stupéfiants? Et surtout, que faire pour prévenir la consommation de ces stupéfiants?
Ils prennent un certain goût à ce médicament et le but de ce médicament, c'est tout simplement d'avoir un bien-être, d'avoir un bien-être, de se sentir bien, de se reposer et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a transcendé les hormones, c'est-à-dire qu'il est entré dans leur cerveau, dans leur sang, et puis ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée.
Quelles sont les questions dont nous discuterons avec le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste des addictions?
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
L'interview que nous a accordé le psychologue Siméon Nomo, spécialiste des addictions. Cette discussion nous aidera à explorer les mécanismes qui poussent les individus vers la consommation des drogues, les effets dévastateurs de la dépendance et les voies possibles vers la guérison, tout en abordant les stratégies de prévention et de traitement.
Merci beaucoup, docteur, d'être notre invité pour cette émission. Nous parlons du danger des stupéfiants et comment les gens qui sont sous influence de ces stupéfiants peuvent s'en sortir. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle stupéfiant, docteur?
Merci de m'avoir dans cette émission. Je suis psychologue clinicien et je suis spécialiste des addictions. Répondre à cette question nécessite assez de temps, mais je vais être tout simplement bref, donner les points essentiels. Un stupéfiant, c'est un médicament non légal. C'est une drogue. Lorsque vous la prenez en dose mineure, en dose simplifiée, elle vous excite, soit peut-être à lire beaucoup, elle vous excite, soit à vous relaxer beaucoup ou suffisamment. Elle vous procure une joie intense. Mais maintenant, le même stupéfiant, la même drogue prise de manière exagérée va développer en vous l'habituation, ce qu'on appelle l'addiction. Et dès que vous vous habituez à ce stupéfiant, votre comportement qui était celui de la relaxation, qui était celui de la gaieté ou de l'éveil moral, l'éveil du cerveau à pouvoir travailler, passe à une autre vitesse, d'où l'addiction.
Ok, docteur, qu'est-ce qui pousse les gens à consommer ces drogues de cette façon assez désordonnée, de façon qui n'est pas médicalement admise?
Je l'ai dit tantôt, un stupéfiant, c'est un médicament qui est illégal, que certaines personnes prennent pour satisfaire un besoin. C'est-à-dire que pour avoir un effet peut-être agréable, un effet de bonne humeur. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à le prendre de façon
non autorisée?
En fait, ils ne le font pas d'eux-mêmes. Le fait qu'ils ont senti l'effet de ce médicament dans leur corps ils ont la tendance à le reprendre à nouveau. Et ils prennent un certain goût à ce médicament. Et le but de ce médicament, comme je l'ai dit au départ, c'est tout simplement d'avoir un bien-être. D'avoir un bien-être, de se sentir bien, de se reposer et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a transcendé les hormones. C'est-à-dire qu'il est entré dans leur cerveau, dans leur sang, et a développé un goût. Et puis, ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée. Et ils ne comprennent plus les effets de ce stupéfiant dans leur corps, dans leur organisme.
Alors, docteur, y a-t-il des signes de la dépendance à la drogue qui peuvent alerter?
Oui, on peut ne pas détecter des signes, c'est-à-dire des signes visibles. Mais nous savons que, par exemple, la jeunesse aujourd'hui a développé un certain nombre de plaisirs exogènes, c'est-à-dire que des plaisirs venant de l'extérieur, qui les pousse à vouloir démontrer qu'ils sont efficaces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le jeune veut démontrer qu'il est plus compétitif que l'autre, il est plus efficace que l'autre, et qu'il peut faire telle ou telle chose plus que l'autre. Voilà des signes. Je prends un exemple, les femmes. Ce sont des facteurs qui poussent les jeunes à vouloir prendre des drogues. Ils se disent, il faut que j'aille, je démontre à ma copine que je suis efficace, que je suis bien. Autrement dit, elle va me quitter. Ça, c'est d'un. De deux, l'attirance du matériel. C'est-à-dire que je dois montrer à ma copine que j'ai de l'argent. Et pour que j'ai de l'argent, il faut que je me dope, pour que je sois plus courageux, que je développe un courage au-delà de ce qui est normal, pour pouvoir soit casser une maison, pour pouvoir peut-être agresser casser une banque, casser, je ne sais pas moi, détourner, voler, afin de satisfaire ma copine. Vraiment, je prends une image comme celle-là pour rester dans ce cadre, afin qu'on comprenne qu'est-ce qui peut pousser le jeune à vouloir prendre du stupéfiant. Donc, je dois satisfaire ma copine, je dois satisfaire ma petite amie, ou alors vice-versa. La petite amie veut satisfaire son garçon, son petit gars, et il ou elle se jette pieds et poings liés dans la prise de stupéfiants. Et ils savent très bien que c'est illégal, mais parce qu'ils ont pris goût au départ, c'était simplement une expérience qu'ils voulaient expérimenter, une expérience qu'ils devaient avoir, basée peut-être sur un conseil d'un ami qui leur a dit, voilà, essayons par exemple ci ou ça. Et donc, après ça, ils tombent dans ce qu'on appelle l'addiction, c'est-à-dire le goût de la prise de ce stupéfiant.
Ok, mais ce goût s'accompagne certainement des risques. Est-ce qu'il y a des risques physiques et psychologiques liés à la consommation de la drogue?
Bien sûr, il y a beaucoup de risques, madame. Je vous assure. D'abord, si je prends l'exemple des opioïdes. Les opioïdes sont des drogues prescrites médicalement. Le médecin va vous dire que c'est contre les douleurs fortes, les douleurs sévères. Mais illégalement, des individus se lancent dans les opioïdes parce que voilà, le mal de tête ne cesse. Et puis ici, ils se lancent. Et puis ils commencent à les prendre. Les opioïdes, par exemple, sébastan, méthamphénopine. Ces opioïdes, ces médicaments sont très dangereux et ça a des effets néfastes dans l'organisme. Je vais prendre deux dimensions parce que quand nous faisons les évaluations psychologiques de ces personnes déjà addictives des opioïdes ou bien des stupéfiants, nous partons sur la base de 6 étapes, c'est-à-dire que 6 modèles ou 6 sessions. Nous commençons généralement par évaluer la dimension biologique. La dimension biologique qui est celle de l'intoxication que le stupéfiant va avoir dans le corps du sujet. Donc les intoxications, quels sont les risques qui sont associés, n'est-ce pas, à cette prise de stupéfiant par ce garçon. Et dans cette dimension biologique, lorsque nous l'avons évaluée, s'il n'y a pas d'intoxication grave, ok, on va tout simplement procéder à ce que nous appelons la thérapie. Mais s'il y a des conséquences graves, des risques graves qui peuvent dégénérer sur le plan biomédical, c'est-à-dire que la condition médicale de celui-ci a été entamée, il y a par exemple une maladie chronique qui s'est assise et tout ça, alors nous faisons de la référence, nous le référons. Bon, maintenant, il y a une autre dimension que nous appelons la dimension psychologique. C'est-à-dire que la dimension psychologique, c'est-à-dire cognitive, ou bien comportementale, ou bien même émotionnelle. Vous voyez, quand quelqu'un a fini de prendre la drogue, sur le plan émotionnel, son sourire n'est plus un sourire net. Voyez-vous, il n'a plus un sourire adéquat, un sourire net, comme je dis. Il, de façon exagérée, va montrer ses dents. Ses yeux commencent à être larmoyants. Le comportement psychomoteur est lent, c'est-à-dire l'action de son corps, ses mains, sa démarche, il titube, ainsi de suite. Et ça, l'évaluation peut nous pousser à consulter un psychiatre pour une prise en charge psychiatrique, une prise en charge médicamenteuse. Et comme je dis, c'est un niveau de fonctionnement assez grave.
Est-ce qu'il y a des options de traitement pour venir en aide à ceux qui sont dépendants de la drogue? On précise bien la drogue qu'on prend de façon illégale et anarchique.
Bien sûr, c'est ce que je disais. La drogue illégale, la drogue anarchique, c'est ce qu'on appelle la dépendance de la drogue des stupéfiants. Je disais que la dimension biologique, elle est là. Nous l'attaquons, c'est-à-dire que lorsque nous avons évalué le degré d'acuité intoxicationnelle, il y a une intoxication potentielle, on va travailler dessus, on va voir quels sont les risques que le client, le sujet ouvre, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Bon, maintenant, il y a également dans cette même dimension, il y a la partie B qu'on appelle la dimension médicale. Quels sont les médicaments que le sujet doit prendre au cas où il y a une chronicité, c'est-à-dire que cette stupéfiant ont développé dans son corps, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il y a ce qu'on appelait la dimension psychologique, qui est également celle de l'évaluation cognitive, comportementale et voire même émotionnelle. Parce que la condition du sujet addict à la drogue illégale est une condition psychologiquement entamée. Et nous nous rassurons que s'il a été entamé psychologiquement, ça veut dire que son comportement va évoluer vers l'extrême, vers le négatif, vers la sévérité. Et cette sévérité-là nécessite, n'est-ce pas, la consultation d'un psychiatre.
Alors, docteur, comment prévenir la consommation illégale des stupéfiants de façon générale dans la société, mais surtout auprès des jeunes?
La prévention passe par la responsabilité de l'État à réduire la vente ou alors réduire l'accès de ces stupéfiants aux jeunes. Je sais, ce que je viens de dire là, c'est presque une utopie, mais c'est une responsabilité néanmoins. Si les États dans le monde entier pouvaient contrôler de façon sérieuse à réduire ces stupéfiants, je crois que la jeunesse n'aurait pas moyen d'y arriver. Et il est vrai que certains États ont mis sur pied des stratégies pour contrer cela. Par exemple, la police qui veille à ce que dès qu'on vous a trouvé avec un stupéfiant, on vous arrête, ainsi de suite. La répression va intervenir. Mais je disais, l'État va devoir faire ça. Maintenant, l'État a aussi d'autres moyens, et ça c'est un moyen aussi important. Quiconque a senti que son stupéfiant qu'il a commencé à prendre dans sa vie ont développé des inaptitudes en lui, cette personne peut se rendre dans un milieu de soins. Et il en existe cinq. On en existe cinq niveaux de soins à ce moment-là. Si vous êtes prêt à vous y engager, ce n'est pas forcément, comme je parle de la dimension biomédicale, ce n'est pas forcément l'hôpital que vous devez vous limiter. Vous devez également essayer de vous lancer à ce que nous appelons le niveau des soins intensifs. Maintenant, l'autre point de salut, ma foi, c'est vraiment la prière. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu, rien. Et si vous, un temps soit peu, après vos sessions de thérapie avec votre clinicien, vous pouvez vous remettre entre les mains du Seigneur et il va vous guérir, parce que Dieu guérit, je crois. Dieu guérit aussi les individus qui souffrent des maladies liées aux stupéfiants.
Je vous remercie, docteur.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de notre entretien avec le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de Santé avec...
Cette semaine, dans Carnet de Santé, les maladies cardiovasculaires sont en tête des causes de décès mondiaux. Découvrons comment la surveillance cardiaque sauve des vies. Dr Chandel Knight, un naturopathe, livre ses conseils pour préserver la santé cardiaque. Ensuite, une flambée de grippe aviaire suscite des inquiétudes sur sa transmission et ses effets économiques. Enfin, une application révolutionnaire aide les guérisseurs traditionnels à moderniser leurs pratiques en Afrique du Sud. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Les maladies cardiovasculaires sont les principales causes de décès dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En 2019, environ 32% des décès mondiaux étaient dus à des maladies cardiovasculaires. Une surveillance régulière du cœur permet pourtant de détecter les signes précoces, de suivre l'évolution des maladies et d'évaluer l'efficacité des traitements. Elle aide également à identifier les facteurs de risque modifiables et à mettre en place des stratégies pour les gérer. Partons à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, à la rencontre d'un cardiologue et d'un patient pour comprendre l'importance du suivi cardiaque. Reportage Yacine Sio.
On fait un ECG, enlevé.
Depuis quelques mois, Diallo ressent des palpitations au niveau du cœur. A priori, rien de grave, mais cet homme âgé de 45 ans a pris rendez-vous chez le cardiologue pour en avoir le cœur net.
On a fait l'ECG. L'ECG semble normal. Donc ce qu'on pourra faire, comme vous êtes dyspnéique, vous respirez difficilement, on va faire une échographie cardiaque la semaine prochaine.
Rien n'a signalé sur l'électrocardiogramme, mais le cardiologue, prudent, recommande un examen supplémentaire pour placer le patient sous surveillance cardiaque et ainsi éviter les mauvaises surprises.
La surveillance d'un patient cardiaque est cruciale pour éviter les complications. Et donc c'est important de faire une surveillance paraclinique, électrocardiographique, échographique, et puis il y a la surveillance biologique qui s'impose, telle que l'examen du rein qu'on appelle la créatinémie. Et il y a une surveillance psychologique qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, un malade qui est atteint de pathologie cardiaque ou cardiovasculaire, il est faible au plan psychologique. Donc il faut faire le diagnostic de l'anxiété ou de la dépression avec le score HAD, Hospitality Anxiety Depression.
Ce suivi médical peut sembler long, mais il est nécessaire car les risques cardiovasculaires peuvent provoquer des dommages irréversibles chez les malades.
Et donc tous ces examens sont faits pour détecter d'autres facteurs des risques cardiovasculaires, tels que l'hypertension artérielle, qui est le chef de file, qui va agir sur le cœur, donc entraîner des pathologies cardiovasculaires comme l'insuffisance cardiaque. C'est la première cause de l'insuffisance cardiaque dans notre contexte en Afrique. Et il y a d'autres facteurs comme le diabète, il y a l'obésité, il y a le stress aujourd'hui, et puis il y a la sédentarité.
Mariam Bakayoko, 66 ans, a eu un accident cardiovasculaire et depuis lors, elle veille au grain. Son tensiomètre à portée de main, la sexagénaire surveille ses constantes quotidiennement. Le tensiomètre est devenu son ange gardien.
J'ai fait une crise d'AVC sans savoir que c'était un AVC. Bon, Dieu merci, j'ai été sauvée par le médecin de famille. Depuis que j'ai le tensiomètre, ça m'a beaucoup aidé. Parce que le jour... Je sens que j'ai des vertiges, j'ai des maux de tête. Je contrôle moi-même ma tension. Donc quand je prends et puis je vois l'état de la tension, j'appelle le médecin pour dire que aujourd'hui ma tension est élevée, qu'est-ce que je dois faire? Pour moi, tout le monde doit avoir un tensiomètre à la maison. Chaque foyer doit avoir un tensiomètre.
Selon des chiffres de 2023, en Côte d'Ivoire, près de 46% de la population âgée de plus de 25 ans souffre d'hypertension artérielle. La prévention et l'accès aux outils de surveillance pourraient sauver des milliers de vies. Yacine Sio, Abidjan pour Réseau Afrique.
Pensez-vous qu'utiliser un appareil de surveillance cardiaque vous aiderait à mieux prendre conscience de votre santé cardiaque? Et que faites-vous en général pour maintenir un cœur en bonne santé? Voici quelques réactions en provenance de Kumasi, Ghana.
Je pense que la montre intelligente est un très bon appareil qui vous aide à suivre votre rythme cardiaque, les battements de votre cœur, vérifier vos pas, vos calories et vos habitudes de sommeil. Oui, elle a un certain niveau de fonction si vous prenez bien soin de votre cœur. Je pense qu'il est nécessaire d'en avoir une.
C'est un appareil qui peut vous aider à vous guider pour que vous sachiez ce qu'il en est de votre rythme cardiaque. Même moi, j'en ai en ce moment et j'ai l'habitude de m'en servir ou de l'utiliser pour me guider. Il reconnaît mon cœur, les battements de mon cœur, mais chaque fois que je vois quelque chose dont je ne suis pas sûr à 100%, je consulte mon médecin.
Je sais que l'appareil vous aide à vérifier vos battements cardiaques afin que vous puissiez savoir ce qui ne va pas avec votre cœur. En tant qu'étudiante, j'essaie toujours de m'assurer que mon cœur est dans une très bonne situation. Je fais généralement de l'exercice, je ne saute pas de repas et je mange bien.
Je suis au courant de l'existence de la montre intelligente, mais je ne sais pas si elle aide à surveiller le cœur ou quelque chose comme ça. Je la vois simplement comme une montre normale. Il s'agit d'une montre que l'on met sur sa main pour vérifier l'heure et tout le reste. D'après ce que j'ai lu sur la montre, elle n'est pas précise à 100%. Je ne veux donc pas risquer ma vie pour quelque chose qui ne fonctionne pas à 100% ou pour quelque chose dont je ne suis pas sûr qu'il fonctionne correctement.
Dr Chandel Knights est une experte en naturopathie et fondatrice de Nirvana Holistic Medicine dans le Maryland. Elle propose quelques étapes pour mieux prendre soin de notre cœur.
En tant que médecin naturopathe, notre objectif est d'examiner les causes profondes et certaines de ces causes profondes communes, hypertension artérielle, diabète. Vous savez, c'est la combinaison qui fait des ravages. Et si l'on y rajoute l'hypercholestérolémie, non seulement les artères se rétrécissent, mais elles deviennent plus rigides et le cœur doit pomper plus fort et plus vite. Il est donc impossible pour l'organe de résister à ce type de pression. Et si l'on regarde notre environnement, on s'aperçoit qu'il s'agit de nos habitudes alimentaires. En tant que médecin naturopathe, lorsque quelqu'un entre dans mon cabinet, j'essaie d'abord de savoir pourquoi. Pourquoi souffrez-vous d'une maladie cardiaque? Parce que pour vous donner un traitement efficace, je dois comprendre les raisons. Est-ce que c'est le diabète qui en est la cause? Alors, nous devons traiter le diabète. Et le diabète, en particulier, le diabète de type 2 est réversible. Nous pouvons donc travailler non seulement sur l'alimentation, mais aussi sur l'exercice. Et c'est une combinaison de plantes et de suppléments qui peuvent aider à inverser le diabète. Vous savez, nous pouvons travailler sur le cholestérol, nous pouvons travailler sur toutes ces choses qui conduisent aux maladies cardiaques. La chose la plus importante pour moi est de manger plus de légumes, car les plantes contiennent des substances comme l'oxyde nitrique qui aident à ouvrir les artères ou les vaisseaux, à dilater ces artères. Elles ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent réduire l'inflammation dans votre système. Les trois quarts de l'assiette de chaque repas doivent être constitués d'aliments d'origine végétale. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas manger de viande, mais je veux dire la majorité. Ce qu'il faut manger, ce sont des légumes. Deuxièmement, il faut connaître ces statistiques, les données relatives à votre diabète. J'adore les glucomètres continus parce qu'ils permettent de voir ce que font les sucres tout au long de la journée. Il faut connaître son taux de cholestérol, son taux d'HbA1c, et pas seulement les chiffres de base comme le fructose, ce qui signifie qu'un fournisseur de soins intégratifs comme moi peut faire des tests un peu plus approfondis, puis se lever et bouger. Souvent, les gens se disent qu'ils n'aiment pas faire de l'exercice. Il faut donc trouver quelque chose d'amusant. Je suis une reine de la Zumba. J'adore danser. Vous savez, ce qui vous procure de la joie lorsque vous bougez, c'est ce que vous adapterez à votre mode de vie. Si la salle de sport n'est pas votre passion, ne forcez pas pour y aller. Peut-être que c'est marcher dans les bois, peut-être que c'est faire du vélo. Trouvez ce qui vous procure de la joie lorsque vous effectuez des exercices.
La récente épidémie du virus de la grippe aviaire H5N1 aux États-Unis et le risque de mutation ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté scientifique qui redoute une transmission interhumaine du virus. Les agriculteurs s'inquiètent également de l'impact potentiel sur leurs moyens de subsistance. Reportage de Véronica Balderas Iglesias pour VOA. Le récit est de Thierry Caoré.
George Terwilliger dirige la ferme Pleasantville à De La Plaine, en Virginie, à l'ouest de Washington. Il a modifié sa petite exploitation en raison du virus H5N1 de la grippe aviaire. Ce qu'on appelle la grippe aviaire a entraîné non seulement une augmentation de la mortalité des oiseaux aux États-Unis depuis 2022 et une forte augmentation du prix des œufs dans tout le pays.
Nous n'avons pas agrandi notre élevage de poulet au cours des deux dernières années par crainte d'introduire par inadvertance des oiseaux infectés.
Tel Wilger, membre du bureau des ressources du département de la faune et de la flore de Virginie, est également préoccupé par le risque que la grippe aviaire pourrait représenter pour ses porcs et pour la centaine de vaches et de veaux qu'il possède.
Si la maladie venait à infecter le bétail et à le rendre malade ou à rendre sa viande, il s'agit du bétail de boucherie, inacceptable, cela nous mettrait sur la paille.
La grippe aviaire chez les vaches laitières a été signalée pour la première fois à la fin du mois de mars. Les centres de contrôle et de prévention des maladies affirment que le risque pour la santé publique reste faible, mais des changements constants dans l'ADN du virus inquiètent certains scientifiques.
S'il y a des changements qui rendent plus facile la transmission du virus d'une personne à une autre, ce que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, cela pourrait être un véritable défi en termes de réponse de santé publique. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que ce virus a un potentiel pandémique.
Il est conseillé aux propriétaires d'animaux de surveiller les rappels d'aliments pour animaux contaminés et de lait cru et de ne pas laisser leurs animaux entrer en contact avec des oiseaux sauvages tout en gardant un œil attentif sur les derniers développements.
D'habitude, en décembre, de nombreux Africains retournent dans leur village pour renouer avec leur famille et leurs traditions. En Afrique du Sud, cela inclut les guérisseurs traditionnels. Comme le rapporte Zahir Kassim depuis Johannesburg, beaucoup d'entre eux découvrent qu'une nouvelle application aide à moderniser cette pratique ancestrale à l'ère numérique. Alexandrine Holognon.
Cette femme de Johannesburg se prépare à une consultation virtuelle avec son guérisseur traditionnel du Cap. Pour s'adonner à cette pratique ancestrale, elle utilisera l'application Goma. Celle-ci permet aux utilisateurs de tenir des séances virtuelles avec leur guérisseur et de leur acheter des produits. Gogo Zifo est une guérisseuse traditionnelle qui affirme que l'application permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder à cette pratique ancestrale.
L'intérêt de l'application est de pouvoir trouver une guérison traditionnelle, une aide traditionnelle ou une aide médicale traditionnelle dans un environnement sûr, avec des guérisseurs qui ont été contrôlés.
Lebogang Ratao a eu l'idée de créer cette application après avoir eu du mal à trouver un guérisseur traditionnel pour son voyage spirituel. 4 ans plus tard, l'application autofinancée est devenue réalité.
J'ai constaté que beaucoup de gens, en particulier les nouveaux venus, étaient vraiment intimidés par le fait de se rendre pour la première fois chez un guérisseur spirituel et par le fait de ne pas savoir comment trouver les guérisseurs. Je me suis donc dit que je pouvais regrouper tout cela en un seul service et terminer le processus en leur offrant la possibilité de faire apporter leurs objets à leur domicile. C'est un service complet pour l'utilisateur. Et oui, c'est à partir de là qu'une Goma est née.
Lebogang Ratao explique que l'application héberge actuellement 40 guérisseurs traditionnels et compte plus de 100 utilisateurs, dont Reout Meitse Toala.
C'est très difficile de trouver des guérisseurs qui font des choses spécifiques parce qu'on ne veut pas toujours n'importe quel guérisseur. Vous voulez peut-être quelqu'un qui sait lire les rêves, traduire les rêves, ou quelqu'un qui sait vous aider à trouver un emploi et qui prie pour que vous trouviez un emploi.
Fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Notre invité, le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction, a expliqué la nature des stupéfiants, les motivations qui poussent les individus à les consommer de manière illégale, ainsi que les impacts physiques et psychologiques associés à leur usage. Il a souligné l'urgence de traiter le problème de la consommation illégale de stupéfiants, en particulier parmi les jeunes, tout en offrant des perspectives encourageantes sur les options de traitement disponibles et le rôle crucial de l'État dans la mise en place de politiques de prévention, de sensibilisation, ainsi que l'importance de l'accompagnement médical et psychologique pour ceux qui cherchent à se libérer de l'emprise des drogues. Le docteur Siméon Nomo a par ailleurs évoqué la dimension spirituelle dans le processus de guérison et aussi la collaboration entre les institutions, la communauté médicale et la société dans son ensemble est essentielle pour forger un avenir où la dépendance aux drogues illégales est non seulement mieux comprise,
mais aussi plus efficacement contrées. En plus, nous vous avions proposé Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.